Prologue. 24 juillet 1994.
Pleure pas, maman. C'est mon histoire. Je vais revenir.
La petite voix tranquille flotte quelques secondes dans la chambre avant de se dissoudre. Un souffle, une transparence. Puis le silence encore. C'est une petite fille qui vient de parler. Elle porte une jolie chemise de nuit rose qui s'attache sur le devant avec un grand ruban de satin qui glisse. Elle a 6 ans. Elle dit parfois des choses qui nous surprennent et nous échappent. Je veille la mère qui berce la petite fille, qui tient dans ses bras un grand chat de peluche mou et maigre. Je chante pour la mère, la petite fille et le chat. La chanson fait des ronds, traverse l'espace et s'échappe dans la nuit par la fenêtre ouverte. Les nuits sont interminables dans un hôpital et elles se ressemblent toutes. C'est un autre monde ici, bien différent de celui des vivants. Les vivants sont tous très occupés à vivre. Ils ne peuvent pas écouter ce que disent les petites filles leucémiques. Qu'ils sont difficiles, tortueux, imprévisibles et magnifiques, les chemins qui m'ont conduite jusque dans cette chambre. J'ai l'impression d'être à ma place et de jouer enfin le bon rôle, celui qui m'appartient. Je me sens bien là, à bercer la mère qui porte l'enfant malade. Je ne pouvais pas célébrer d'une façon plus belle et plus appropriée cet étrange anniversaire du 24 juillet. Le chat usé vient de glisser des mains de la petite jusque par terre sans bruit. Il n'est plus qu'une forme disloquée, douce et rousse, sur le plancher à carreaux. La petite fille a dû s'endormir. Sa mère me regarde. Elle dit que ma voix la rassure. Elle me demande si je peux chanter encore pour elle. Elle ferme les yeux. Elle s'abandonne. Libérée par cette lente mélopée que j'improvise à mesure, des images surgissent tout à coup de ma mémoire, une à la fois, puis toutes ensemble, en accéléré. Je les laisse venir, elles me ramènent au début de juillet 1985, il y a 9 ans. Il fait chaud comme aujourd'hui. Marie-Noël, ma fille de 9 ans, et Jean-Sébastien, mon fils de 12 ans, chantent à tue-tête à l'arrière de la voiture. Des chansons folles et drôles qu'ils inventent. C'est fou ce qu'ils chantent faux tous les deux. Je les supplie de nous épargner. Jean-Claude, mon mari, réalisateur de films, se bouche les deux oreilles en lâchant le volant. Il dit en riant que s'ils n'arrêtent pas, ils vont devoir continuer le voyage en autostop. Il fait mine de s'arrêter tout de suite sur le bord de la route. Les enfants crient, rient encore plus fort. Ils sont excités, débordants de vie, nous aussi. Les paysages défilent. Après Paris, c'est Dijon, comme la moutarde. Puis Nice, Florence, Venise. L'éblouissante Venise, infiniment plus belle et fascinante que tout ce qu'on avait pu apprendre d'elle dans les livres ou dans les films. Venise. Était-ce là que se cachait l'ennemi ? L'ennemi flottait-il sur les canaux troubles et pollués qui la traversent de part en part ? Ne s'était-il pas plutôt dissimulé dans un poisson, une viande crue, un dessert? Avais-je mangé l'ennemi? L'avais-je bu? Quand l'avais-je laissé pénétrer mon corps? Était-ce le jour heureux de l'achat de ce collier de cristal de Murano, un bijou absolument magnifique qui décomposait la lumière de l'après-midi en parcelles de couleurs bondissantes sur mes doigts? Venise a été la dernière étape de notre voyage. Quand nous sommes rentrés chez nous, le 10 juillet, je transportais, paraît-il, l'ennemi à l'intérieur de moi. Je l'abritais sans le savoir, et lui, il préparait en secret une attaque massive contre moi. 3 jours ont passé avant que n'apparaissent les premiers symptômes de la maladie. Le temps de remettre la maison en ordre, de faire 12 brassées de lavage, de repasser une montagne de vêtements de coton, de tout ranger dans les tiroirs. Le temps de revoir la famille, les amis, le temps de faire développer les photos de vacances.
Et voilà que le samedi soir, sans avertissement, le traître me frappe de plein fouet. Je ressens une douleur suraiguë à la rate et au front, un éclair jaune fulgurant. Je vacille, c'est tout. Plus rien. J'avale deux cachets d'aspirine et je me couche, en prenant la ferme résolution de commencer un régime le lendemain. C'est sûrement le foie qui fait des siennes. Normal après 3 semaines de bonne bouffe en Europe. Et puis je me sens un peu ronde. Perdre 1 ou 2 kilos ne me fera pas de tort. Il est facile de tenir ma résolution. Le lendemain, je ne me sens pas très bien, je n'ai pas faim. Le lundi, comme la douleur au côté gauche persiste, je décide de consulter un médecin. Il m'examine sommairement et procède à quelques tests et analyses. Il dit que tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici quelques jours. Je passe la journée du mardi au lit, trop faible pour me lever. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Le mercredi, on me fait entrer d'urgence à l'hôpital. J'ai 40 de fièvre, je grelotte, j'ai mal. Les médecins ignorent de quoi je suis atteinte, ils m'isolent. Le cauchemar commence. Le voyage au bout de l'horreur. Je n'apprendrai que plusieurs semaines plus tard le nom de l'ennemi. C'est un virus, un Coxsackie B5. Il a pris possession de mon corps et s'est installé, en maître absolu, en provoquant une virémie. Tous les organes vitaux sont atteints, les uns après les autres. J'entre directement dans l'univers des souffrants. Mon état se détériore très rapidement. Rien ne va plus. 10 jours plus tard, le virus me terrasse et triomphe. Je meurs. Ma vie aurait dû s'achever là, c'était fini. J'avais basculé de l'autre côté des choses. Pourtant, une chose incroyable arrive. Après un temps d'absence que personne n'a pu évaluer, quelques secondes, quelques minutes peut-être, je réintègre mon corps, violemment, dans un hurlement de douleur. C'était le 24 juillet 1985. Il était environ 23h30. La vie m'accordait un sursis, une prolongation. C'est cet anniversaire que je célèbre ce soir en secret. Mon 9e anniversaire. Celui de mon retour au combat, de ma lutte à finir avec la maladie. Celui de ma renaissance. Après avoir passé 2 mois et demi à l'hôpital, je rentre enfin chez moi. Broyé, à bout de force, changé. Avec 16 kilos en moins. Rien ne sera plus jamais pareil. Il me faudra tout réapprendre et surtout comprendre pourquoi tout cela est arrivé. Avec une seule certitude au fond du cœur, la mort n'existe pas, elle n'est qu'un passage vers ailleurs. Après cette déchirure qu'on appelle la mort physique, la vie continue dans un autre espace qui nous appartient depuis l'éternité. Je ne chante plus. C'est le silence qui nous enveloppe et nous protège. La petite fille dort profondément maintenant. Je la prends doucement des bras de sa mère et je la dépose dans son lit. Je ramasse le grand charrou et je le borde à côté d'elle. La mère se prépare à s'étendre, elle aussi. Cette nuit, c'est moi qui veille. Elle pourra se reposer, je suis là. La nuit sera longue.